le rayon BD, le Dracula de Georges Bess.
Comment peut-on anéantir cet ennemi de l'humanité qui semble indestructible? Ceux qui le traquent pour mettre fin à son règne de terreur deviennent ses victimes.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture qui aujourd'hui, une fois encore, va lorgner du côté des mauvais genres, si chers à François Angelier et à ses amis. En effet, après avoir évoqué la semaine dernière les zombies morts-vivants de Walking Dead, cette semaine c'est vers un véritable mythe moderne que nous nous tournons, une icône de l'horreur qui irrigue depuis plus d'un siècle notre imaginaire tout en nous vidant de notre sang. J'ai nommé le plus célèbre des vampires, le comte Dracula. Les gousses d'ail, les crucifix, les pieux, les chauves-souris et les caisses de bois dans de sombres cryptes pour se reposer à l'abri de la lumière, tout cela fait partie de notre culture depuis plus d'un siècle, grâce à des pièces de théâtre, des films et un roman, puisqu'à l'origine Dracula est un roman, écrit en 1897 par l'Irlandais Bram Stoker. Ce roman est d'ailleurs depuis le mois d'avril 2019 disponible dans la prestigieuse collection de la Pléiade, entouré d'autres écrits vampiriques, présentés et traduits par Alain Morvan. Si vous ne l'avez pas lu, je ne saurais trop vous y encourager. C'est un formidable roman, très bien construit, avec des extraits de journaux intimes, des correspondances, des coupures de presse, un journal de bord, ce qui fait qu'on progresse dans l'intrigue et dans la compréhension du mystère par petites touches, avant que l'action ne se resserre à la fin, dans une longue course-poursuite vers les Carpates. Mais je n'en dis pas plus, car notre invité d'aujourd'hui aura sans doute beaucoup à nous dire dessus. Il publie chez Glénat une magnifique adaptation du roman de Stoker. Cet invité est assez rare dans les médias, il me disait même à l'instant que c'était la première fois qu'il venait à la maison de la radio alors qu'il fait pourtant de la bande dessinée depuis longtemps, c'en est un auteur majeur, il s'appelle Georges Bess. Bonjour Georges Bess.
Bonjour.
Alors avant de parler de Dracula, quelques mots pour vous présenter à celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Ça fait bientôt 50 ans que vous faites de la bande dessinée.
Oui.
Mais vous avez commencé loin de France puisque vous avez fait vos armes en Suède.
Oui, et puis avant aussi. Depuis que je suis petit, quoi, j'ai toujours fait du dessin. Oui, j'ai commencé en Suède. J'ai fait pas mal de choses là-bas.
Des comics ?
Des comics, oui, des comics, si vous voulez. Je ne sais pas comment on appelait ça, des journaux. Quoi. Bon, ils ne sont jamais parus en Europe, à part en Suède. J'ai fait un petit moment, j'ai travaillé avec le journal Mad, qui avait une traduction suédoise. Alors, ils avaient les droits des pages pour... Alors, c'était le même principe, des satires, des caricatures, tout ça. Et puis, j'ai surtout fait, pendant pas mal d'années, j'ai dessiné les aventures du fantôme du Bengale.
Le fantôme du Bengale, absolument.
C'est aussi vieux que le Superman, je pense, un truc comme ça. Ça, moi, ça me plaisait beaucoup, c'était marrant. Ça changeait d'époque, le personnage, c'est toute une histoire qui, de père en fils, le héros se transmet ses pouvoirs, etc. Du coup, ça me permettait de dessiner aussi bien un jour, il était pirate, dans une autre histoire, il était gangster à Chicago, à toutes les époques, c'était assez drôle.
Puis... Et alors, vous avez fait votre main comme ça ?
Ouais.
Votre œil, votre main ?
Ça m'a beaucoup aidé, j'ai appris en fait le travail.
Et dans les années 80, finalement, rentré en France,
ouais.
Vous avez rencontré quelqu'un qui est important aussi dans la bande dessinée, ouais. C'est Alejandro Jodorowsky.
C'est ça.
Et vous avez commencé à travailler avec lui, notamment sur Le Lama Blanc, mais ensuite sur beaucoup d'autres choses.
Oui, on a commencé d'abord par une histoire qui paraissait dans le journal de Mickey, qui s'appelait Les Jumeaux Magiques.
Les Jumeaux Magiques, oui.
Ensuite, on a continué avec Le Lama Blanc, il y a eu... Juan Solo, qu'est-ce que j'ai fait encore ?
Hannibal 5.
Oui.
Toutes ces choses qui sont rééditées ces temps-ci aux Humanoïdes Associés qui rééditent toute l'œuvre de Jodorowsky.
Oui.
Donc on peut découvrir tout ça si on ne connaît pas. C'est assez formidable.
Oui, ça a été des périodes extraordinaires de ma vie. J'ai adoré faire ça. Le Tibet, ça a été une immense expérience pour moi, parce qu'en plus j'ai été... Dès que je fais un truc, je vais dans le pays où ça se passe. C'est pour le décor, pour l'ambiance, ça, et puis ça m'apporte beaucoup. Alors, je suis retourné pas mal de fois. J'étais en Inde aussi.
Alors, en Inde, on peut lire, par exemple, un carnet de voyage que vous avez fait paraître il y a quelque temps dans la collection Vent d'Ouest chez Glénat.
Oui.
Incredible India, qui est formidable. Et puis, alors, il y a une série qui s'appelle Le Vampire de Benares.
Oui, voilà.
Et là, on s'approche de notre sujet.
Oui, c'était déjà une histoire de vampire, mais à ma sauce, quoi. C'était rien à voir avec Dracula.
Ouais. Non, non. Mais alors, j'ai noté quand même une citation du vampire dans Le Vampire de Benares, dans le tome 2, je crois. Oui. Où il écrit, il évoque Bram Stoker, et il a, je cite, « construit un vampire d'opérette pas très opérationnel ». Et lui, il remonte beaucoup plus loin dans l'histoire des vampires. C'est vrai que Dracula de Stoker a occulté un peu toute une histoire beaucoup plus longue, celle des vampires, en devenant la figure du vampire. Et vous vous intéressiez aux vampires depuis bien avant.
Oui, c'est un thème, mais c'était surtout un prétexte. En fait, c'était une allégorie que j'avais écrite. J'ai mis 3 tomes pour la raconter, cette histoire. Mais en fait, j'avais fait la constatation que les vampires existaient bel et bien, sauf qu'ils n'avaient pas la tête qu'on leur prête. Ils n'avaient pas des cheveux gominés, une grande cape et des grandes dents, mais ils avaient souvent des nœuds papillons et des smokings, et ils avaient des postes clés un peu partout sur la planète, et qu'ils ne se nourrissaient pas du sang des gens, mais de la misère du monde. Vous voyez, on n'a pas besoin comprendre de qui je parle. Quoi.
Pas besoin d'aller plus loin pour l'allégorie, mais pour le Dracula aux cheveux gominés, celui au comte Dracula. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé à adapter le roman de Stoker? Depuis quand est-ce que vous aviez ce projet?
Et en fait, j'avais pas du tout le projet. C'est une idée de mon éditeur et ami, Philippe Horry s'appelle, qui a vu un jour, il y a 3 ans à peu près, j'avais fait une énorme exposition dans une galerie d'art contemporain, d'immenses dessins que je faisais. J'appelais ça free jazz, c'est-à-dire que c'était la liberté totale, quoi. J'improvisais, je faisais du dessin automatique comme on fait de l'écriture automatique. C'était en noir et blanc, il y avait des thèmes qui faisaient penser à ce monde gothique et romantique. Et quand mon éditeur a vu cette expo, ça lui a donné l'idée de me proposer d'entreprendre ce boulot-là. Et au début, je dois dire, j'étais pas du tout enthousiaste. Moi, Dracula, c'était un truc que j'avais connu dans mon enfance. Ça me paraissait un peu désuet, un peu obsolète. Vous voyez, un truc d'une autre époque. Seulement, quelques temps après, je suis parti avec l'idée donc de ce bouquin à faire. Éventuellement, j'ai été en Angleterre. J'ai été voir un ami qui m'avait invité, qui est lui-même le petit-fils de Marc Chagall, donc qui habitait dans un endroit très spécial de Londres qui s'appelle Hampstead. Et comme par hasard, Hampstead, c'est l'endroit où presque toute l'action de Dracula se passe. Et quand je lui ai parlé du fait qu'on me proposait de mettre en image, en bouquin, le livre de Bram Stoker, il a été hyper enthousiaste. Alors lui, il sautait comme une puce, et puis il avait des copains, ils étaient fous. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour les Britanniques, c'est quelque chose d'énorme. On ne peut pas se rendre compte à quel point Dracula et Bram Stoker, ils connaissent tout sur Bram Stoker. Ils font des pèlerinages pour savoir dans quel pub il a été boire un coup, partout où il a été, etc. Alors j'ai eu droit à la visite guidée de mon ami qui m'a amené au cimetière extraordinaire de Highgate, ça s'appelle Highgate Cemetery. C'est un cimetière, il faut le voir, c'est vraiment étonnant. Ça se passe souvent dans ce cimetière dans le bouquin. Il est vraiment étonnant, ce cimetière-là.
Celui où Lucie est tuée pour de bon,
ouais,
par exemple.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a des caveaux, des machins. Ouais. Enfin, et en même temps, c'est une espèce de jungle, c'est sauvage, c'est très très étonnant comme endroit. Il m'a fait visiter un endroit où il y a des petites maisons gothiques et, comment on peut dire, romantiques aussi. Je sais pas, c'est une anecdote. Je crois que c'est un milliardaire londonien qui a offert ça aux gens qui travaillent avec lui. Alors chacun avait sa petite maison, c'est un endroit qui s'appelle Holy Village. Et bon, j'ai vu ça, c'est assez fatigant. C'est-à-dire que je suis rentré tout doucement dans le décor réel qu'a utilisé Bram Stoker. On a été manger dans un pub qu'il fréquentait. C'est-à-dire que tout le monde sait tout ça. En Angleterre, on dirait que tous les Anglais connaissent l'histoire. Allez, tout doucement, ça fait son chemin. Moi, je n'étais pas trop chaud pour faire cette histoire. Surtout que je ne prends jamais de commandes. Je ne fais jamais des trucs qu'on me demande. Je travaillais avec Jodorowsky parce que c'était un type que j'admirais. J'étais prêt à faire n'importe quoi avec lui. Mais pour le reste, je refusais toujours les commandes. Et là, bon. Ensuite, il s'est passé encore un truc. J'ai été faire un voyage dans mon île, où j'ai vécu très longtemps, Formentera, c'est dans les Baléares. Et là, j'étais chez un ami, et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire mon vampire comme je l'ai fait, avec des cheveux très longs, blancs. Ben, il doit avoir dans les 75 ans aujourd'hui, ce gars-là, ex-hippie, mais avec panache. Il se déplace, on dirait un prince. Il lui manque la canne avec le pommeau d'argent, vous savez. Il a une idée de lui assez rigolote. Et bon. Et j'ai vu Dracula. Alors je me suis dit, voilà. Alors j'ai pris un cahier, hop, j'ai commencé à faire un storyboard. Et comme j'avais lu le livre, peut-être 2 mois avant, un truc comme ça. Je ne l'avais pas avec moi pendant ce voyage. J'ai commencé à faire mon storyboard de mémoire. Et j'ai continué comme ça tout le long, pratiquement. Vers la fin, j'ai commencé à regarder pour voir si je ne m'étais pas trop éloigné en fait, du livre. Mais j'ai retranscrit d'après ma mémoire uniquement. Et je trouve que c'était bien parce que j'avoue que la lecture même du bouquin était un peu pesante.
Ah oui.
Je sais pas si vous l'avez lu.
Ah oui, je l'ai lu pour l'occasion et je dois dire que moi je me suis bien régalé.
Ceci dit, je fais une parenthèse, moi j'ai lu une traduction qui était terrible.
Ah,
et ma femme avait une autre traduction et quand je l'ai lu, ça a changé tout. Mais bon, j'ai essayé de faire une lecture facile. Quoi.
Mais alors justement, vous parliez de la mémoire, puisque vous avez travaillé de mémoire, Georges Besse.
Oui.
Dracula, c'est un palimpseste de mémoire, puisqu'il y a ce livre, bien sûr, de Stoker, qui est le matériau originel. Mais il y a tout un tas d'adaptations cinématographiques, oui. En particulier, avec des images qui nous ont marquées. Oui. On peut penser au film depuis Murnau jusqu'à Coppola, évidemment, en passant par Werner Herzog et les autres. Et puis même pour la bande dessinée, Guido Crepax avait fait un Dracula.
Ah, on m'a dit ça, mais je
vous l'avez pas. Donc tout ça, c'est pas du matériau que vous avez voulu
Non, pas du tout. Au contraire, j'ai évité de regarder quoi que ce soit, parce que on est vite influencé. Hein. J'ai préféré, d'ailleurs, si vous regardez mon bouquin, pas trouvé beaucoup de ressemblances.
Pas beaucoup de ressemblances. Et alors, dans toute la série des voyages que vous avez fait, vous n'êtes pas allé dans les Carpates?
Eh ben non, ça reste à faire. Donc ma femme a été, justement. Alors.
Donc ces montagnes que vous dessinez, elles sont des réminiscences plutôt du Ladakh ou du Tibet?
Le Tibet, l'Himalaya, ça j'ai fréquenté. Mais.
Alors donc vous êtes, vous nous dites, attaché au texte, et en effet on voit que c'est quand même une adaptation, on peut dire, vraiment fidèle.
J'ai découvert que tout le monde faisait, on connaît Dracula, tout le monde connaît Dracula n'importe où dans la planète, mais personne ne sait de quoi ça parle cette histoire. Alors j'ai pensé que ce serait peut-être la chose à faire. Illustrer l'histoire, quoi, avec mes dessins et mes...
Et alors, il y a une dimension dont on parle beaucoup, par exemple, quand on évoque Dracula, c'est la dimension érotique. Alors j'évoquais Guido Crepax, qui en a fait évidemment, mais qui a accentué ce domaine-là.
Oui.
Chez Coppola, c'était aussi quelque chose d'assez important. Et alors évidemment, Dracula est une figure de la prédation sexuelle, etc. Mais dans votre livre, ce n'est pas quelque chose que vous avez cherché particulièrement
non,
à mettre
tout.
En avant.
J'ai pas du tout. D'abord, dans le livre, j'ai pas trouvé qu'il y avait le moindre truc érotique là-dedans. On sait qu'il a des compagnes, enfin... qui ont l'air d'être plus ou moins enfermés dans une aile du château. En
fait. Qui sont dans le livre 3 belles jeunes femmes,
voilà.
Et vous en avez fait
moi, j'en
plus,
ai fait plein.
Et puis il y a des moins belles et des moins jeunes.
Oui, voilà, c'est ça. Des vieilles, des jeunes, pourquoi pas. Pourquoi 3 hein, c'est que des coups de crayon pour moi, c'est pas... Alors voilà, j'ai multiplié la chose.
On va parler un peu du dessin d'abord. Pourquoi ce choix du noir et blanc? Vous n'êtes pas
grand... Mes grands dessins dont je vous parlais, c'était Free Jazz, c'était noir et blanc. J'avais fait ça
d'accord.
En noir et blanc. Et il y avait déjà un aspect romantico-gothique, tout ce machin. Je n'avais pas fait exprès, mais c'est venu comme ça. Et du coup, je crois que mon éditeur et moi, on était d'accord pour faire la même chose, une adaptation BD, mais en noir et blanc.
Et alors, on a dans le livre, j'ai une page sous les yeux, est-ce que c'est ça, ces images free jazz que vous appelez, c'est-à-dire, là on voit, il faut que je décrive un peu cette image, on voit au centre d'un grand cadre blanc un crâne, qui est le crâne de la couverture d'ailleurs, entouré d'une... Oui, si c'est le même, j'ai beaucoup vérifié.
Ah d'accord.
Mais avec autour toute une espèce de tache noire qui tient à la fois de la tache de sang, des choses...
Regardez, il y a des petites pattes d'insectes.
Voilà, c'est ça, il y a des pattes d'insectes, il y a presque des cheveux,
Me demandez pourquoi j'ai fait ça, comment, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas, parce que c'est comme l'écriture automatique. Vous écrivez, vous ne savez pas, ça vient directement de l'inconscient. Et après, je ne peux pas dire pourquoi j'ai fait ça. C'est venu sur le moment. Et beaucoup d'endroits, c'est comme ça, c'est...
Et vous avez choisi de rythmer la narration par ces espèces de grandes images.
Je ne sais pas si j'ai choisi consciemment, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de mon inconscient qui a joué dans la fabrication de ce livre, comme dans les autres d'ailleurs. Mais...
Et alors, je pensais justement au processus de dessin. On vous imagine, c'est sa fourmille de petits traits, de petits points, de petites choses. On vous imagine vous noyer complètement là-dedans. Est-ce que c'est un...
Je me régale, je ne me noie pas, j'adore, je nage.
Une volupté, une noyade voluptueuse.
Oui. Ben oui, c'est tout à fait. Pour moi, le dessin, c'est un plaisir fou. J'adore ça et j'adore voir les beaux dessins des autres. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Bon, j'ai une relation avec le dessin depuis que je suis gamin. Quoi. C'est une façon de respirer, quoi, pour moi.
Et alors, dans ce livre, dans ce Dracula, Georges Besse, il y a quelque chose qui vous caractérise aussi, c'est cette façon de jouer avec les cases et le cadre de l'image. Souvent, vos cases ou vos cadres sont posés sur des décors plus grands, ou bien le décor excède le cadre et va jusqu'au bord de la page proprement dit, ou bien vos images et vos vignettes, on pourrait dire vos cases, sont posées sur des fonds gris le plus souvent, qui sont des fonds un peu abstraits, alors quelquefois un peu organiques, comme je disais, on a l'impression de... J'ai l'impression quelquefois que c'est fait avec des photos en très gros plan. Est-ce que je me trompe ?
Non, ce ne sont pas des photos, ce sont de grands dessins. Alors tout ça, c'est l'œuvre de ma femme qui est là. Et c'est elle qui a voulu jouer avec mes dessins, qui a commencé à faire des petites choses autour. Puis tout doucement, vu que j'étais plus que partant et que j'adorais ce qu'elle faisait, elle s'est mise à en faire de plus en plus. Elle prenait des morceaux de mes grands dessins et elle les intégrait là-dedans.
Scanner et agrandir.
Voilà, elle joue avec ce Photoshop. Moi, j'ai trouvé... Elle avait inventé, pour moi, les effets spéciaux dans la bande dessinée. C'est rigolo, mais ça n'avait jamais été fait, je crois.
Et alors, on parle souvent, plusieurs de nos interlocuteurs dans le rayon BD nous ont déjà parlé du blanc entre les cases, du blanc qui est l'espace de l'espace du lecteur. C'est dans le blanc qu'on met... Là, y a le blanc...
Il y en a beaucoup.
Vous l'occupez en mettant des choses qui sont suggestives, cette espèce de... Je disais, quelquefois, ça ressemble à des cheveux, quelquefois, ça ressemble à du sang, enfin, ou à des coulures, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça crée un climat. C'était ça, l'idée.
Ben oui, oui. J'ai du mal à décomposer la manière dont je travaille, quoi, parce que s'il y a une grande partie intuitive, puis une partie contrôlée, mais c'est un jeu entre les deux, quoi.
Il y a quand même un contrôle extrême, puisque pour ceux, je ne sais pas si certains de vos auditeurs qui ne connaissent pas votre travail et votre trait, c'est d'une précision, c'est absolument ciselé.
Ça fait tellement longtemps que je dessine.
Oui, mais enfin,
j'ai des gens qui dessinent
depuis longtemps. Puis...
Mais j'adore le dessin, ça veut dire que j'aime dessiner, mais n'importe quoi, tout. J'ai fait plein de styles avec des noms différents parce que je ne voulais pas être bloqué dans un style particulier.
Je crois que c'était intéressant, c'est de sentir chez Dracula la dimension de fatalité qui est sous-jacente à cette notion d'immortalité ou en tout cas d'éternité. Il est éternellement condamné à rester ce qu'il est, à faire le mal, à à aller de caisse de terre en caisse de terre, si bien que et l'un des personnages qui est la chère Mina Harker dit à deux ou trois reprises au fond le jour où nous réussirons si nous le réussissons à éliminer ce vampire, je suis persuadé qu'au dernier moment, il y aura dans ses yeux une étincelle de joie, de soulagement, parce qu'enfin, il sera libéré de cette damnation qu'est pour lui l'immortalité.
C'était l'angliciste Alain Morvan au micro de François Angelier. C'était dans Mauvais Genre au mois d'avril 2019, à l'occasion de la sortie en Pléiade que j'évoquais tout à l'heure de Dracula et autres écrits vampiriques. J'ai choisi cet extrait pour parler un peu des personnages et de l'interprétation que vous en donnez, Georges Besse. Enfin, parce que Alain Morvan évoque l'étincelle dans les yeux de Dracula à la fin et la première apparition de Dracula dans votre livre, dans votre Dracula, Georges Besse. C'est un personnage avec des longs cheveux blancs, vous nous l'avez dit, et avec des yeux blancs dans lesquels il n'y a pas vraiment de pupille, mais d'étincelles.
Une petite
étincelle avec un strabisme divergent. Il a les yeux qui sont un peu, qui regardent pas en face. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc vous nous avez dit un peu d'où vous est venu ce Dracula? D'abord, est-ce que vous êtes, je vous voyais réagir en faisant un peu la moue au propos d'Alain Morvan. Pour vous, là, vous n'avez pas vraiment de pitié pour ce personnage de Dracula?
Bon, d'abord, il faut pas oublier un détail, c'est que quand même, c'est qu'une fiction, tout ça. C'est une histoire. Ça n'a rien de réel. Je sais qu'il y a des gens qui s'emballent pour ça, qui se déguisent en vampire ou je ne sais pas quoi, mais ça reste comme des légendes, de la fiction pure.
Mais ça nous dit quelque chose quand on réinterprète des légendes, quand des légendes s'élèvent comme ça, sont connues par tous. Et qu'un auteur s'en empare, parfois il y met une intention. Tout à l'heure, j'évoquais par exemple l'érotisme, si c'est la passion de tel ou tel. Qu'est-ce que vous avez voulu ? Vous avez simplement cherché à être fidèle à...
Oui, je crois que j'ai vraiment cherché
à
illustrer l'histoire de Bram Stoker. Il s'appelait Abraham en réalité, comme...
Comme Van Helsing.
Exactement.
Le chasseur de vampires.
C'est ça. Et ça, je peux vous dire, à mon avis, il s'est projeté dans son personnage. Et comme par hasard, c'est lui le moteur, l'intelligence, l'action, etc. C'est Van Helsing. Oui. D'ailleurs, ils en font des films maintenant.
Oui, il y a eu
c'est
des films.
Le personnage principal.
L'arrivée de Van Helsing, d'ailleurs, dans votre livre, est une planche encore absolument magistrale, étonnante, avec cette apparition un peu en contre-plongée en haut de la page. Puis en haut, un beau décor. On le voit arriver. Alors, il y a toute une galerie de personnages. Vous, évidemment, dans Dracula, certains sont haut en couleur, certains sont riches, d'autres sont un peu plus anecdotiques, en particulier les trois amoureux de Lucy, donc les trois personnages principaux sous votre pinceau ou sous votre plume se ressemblent, ont des physiques
Ils ont un peu pas le même âge.
Et anecdotiques.
Ouais.
Mais alors il y a un personnage amusant dans votre livre, c'est le malade mental Renfield qui est donc...
Vous l'avez reconnu ?
Eh ben oui, alors c'est évidemment, on ne peut pas ne pas le reconnaître quand même, c'est Keith Richards, donc le guitariste des Stones.
J'ai failli prendre...
Mick Jagger,
j'ai fait des crobats et tout, puis je trouvais que c'était tellement évident que je l'ai mis de côté, et puis j'ai préféré prendre un moins connu, pour que tout le monde ne s'en rende pas forcément compte. Mais c'est un jeu qu'on retrouve dans les films. Herzog avait choisi pour illustrer le personnage de Renfield de Topor. Vous vous rappelez Topor ? Un gars avec un rire extraordinaire, etc. Coppola, il avait pris un
chanteur. Tom Waits.
Il y a eu... comment il s'appelle celui qui a eu...
Alice Cooper.
Alice Cooper. À chaque fois, ils prennent un chanteur ou quelqu'un de la pop ou de la variété, tout ça. Moi, alors, j'ai fait comme eux.
Donc Keith Richards, alors pourquoi ?
Voilà. Parce qu'il y a... comme ça, pour rigoler. Pourquoi pas ?
C'est pas un lien caché entre les Stones et le diable.
Pas du tout.
De votre jeunesse. Vous êtes pas
allé au... Il y avait un truc avec Devil.
Sympathie for the Devil.
Sympathie for the Devil. On pourrait dire non, mais c'est pas ça.
Il y a toute une lecture diabolique qui est faite de l'œuvre des Stones dans ces années-là. Vous, c'est un clin d'œil.
Ah oui, c'est ça.
Vous nous disiez tout à l'heure, Georges Best, que cette œuvre de Bram Stoker vous laissait un souvenir de quelque chose d'un peu dépassé, d'un peu usé. Oui. Et puis là, vous nous dites que vous n'avez pas cherché à y mettre quelque chose d'actuel ou de préoccupation actuelle, mais à en donner une interprétation assez fidèle, avec toutefois ce laps de temps de la mémoire qui fait son œuvre.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'elle nous dit, à votre avis, cette œuvre aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'elle a quelque chose de... Quand même, est-ce que vous y avez trouvé, en l'illustrant, quelque chose d'aujourd'hui ?
Je crois pas. Je pense que c'est un conte merveilleux, on va dire, même pas très marrant, mais merveilleux, avec un personnage d'une noirceur totale. C'est quand même un prédateur qui est censé répandre le mal en Angleterre et puis partout. C'est quand même pas un personnage très sympathique. Maintenant, je sais qu'on l'a rajeuni de plus en plus, on en a fait un quelqu'un de sexy, il a 18 ans, 16 ans dans certaines séries télévisées, tout ça. Les vampires, c'est pas Dracula, ce sont les vampires. Mais ils sont de plus en plus jeunes, j'imagine, pour ressembler spectateur, quoi. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait deux versions de Dracula. Une avec ses cheveux blancs, qui ressemble à mon ami, et une autre, c'est quand il est carrément Nosferatu, chauve avec des dents,
griffes.
Voilà. Et cette deuxième version, elle me plaît beaucoup, quand il est horrible, parce que je trouve que c'est encore lui qui est le plus proche de l'image que je pourrais me faire d'un vampire qui croupit depuis 4 siècles dans une crypte, entre les chauves-souris, les rats et les cafards. Je ne dois pas rigoler tout le temps. Et puis il sort bouffer des gamins. Je sais qu'il en ramène à ses concubines. Il faut bien qu'elles mangent. Bon, je trouve que c'est Murnau qui a fait le plus beau vampire. Mais je ne voulais pas non plus faire que ce vampire-là. Alors j'ai fait les deux. Puisqu'il peut se transformer, il s'est transformé en un autre lui-même.
Et alors de la même façon, certains auteurs qui se sont penchés sur Dracula ont accentué ou ont fait des recherches sur le personnage historique de Dracula, ce comte Dracule qui était un guerrier.
Vlad
l'Empaleur, etc. Qui n'est pas du tout développé dans le roman de Stoker. Van Helsing, le chasseur de vampires, dit qu'il a fait des recherches. Il évoque à peine le personnage. Vous, donc, comme il ne l'évoque.
J'en parle. À un moment, il se présente et avec tous ses noms. Non, j'ai pas voulu rentrer dans le passé comme dans Coppola. Je crois qu'il
Coppola,
a fait.
Il a fait un prologue.
C'est
où
ça.
On voit,
en ombre chinoise, on voit ses combats contre les Turcs. Mais tout ça était hors du livre. Donc je n'ai pas voulu l'utiliser.
Mais alors, Coppola fait un prologue. Vous aussi, néanmoins, vous faites quand même un prologue dans votre livre, ce premier chapitre.
Oui, il fait partie de l'histoire dans le livre, mais il est placé à un autre endroit.
Voilà. Alors pourquoi vous avez fait ce choix de faire commencer cette histoire par une double page gigantesque?
Ça fait encore partie de ces trucs, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. J'étais dans cette île, j'ai acheté un carnet et j'ai voulu commencer direct. Je me suis mis avec... Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé là. Peut-être que je ne me souvenais plus trop comment ça commençait, le bouquin, mais ça m'est venu après. Quoi. J'ai fait une dizaine de pages et après j'ai commencé avec le voyage Jonathan qui va en Transylvanie. Quoi. Voilà. J'aurais pu commencer par là d'ailleurs. Mais...
Et de même, vous ne savez pas pourquoi j'ai pu voir dans certains de vos traits, des choses, vos traits noirs et blancs qui donnent une consistance comme ça, parfois à des rochers, parfois à l'air.
Oui.
On y voit parfois des fibres musculaires ou des choses qui ressemblent à ça. Et parfois, quand même, parfois des anneaux de serpent. Et puis parfois, quelque chose qui ressemble à des motifs psychédéliques.
Je comprends. Oui, oui.
Quelque chose d'un peu...
Oui. Bah bon, vous savez, quand on regarde les nuages, on voit des chevaux, on voit des tas de choses. Hein. Vous êtes en train de faire exactement la même chose.
Oui, mais vous les avez dessinés.
Vous les avez interprétés.
Ah ouais.
Je n'ai pas forcément fait ce que vous pensez que j'ai fait.
Non, mais ça absolument.
C'est
et heureusement, peut-être.
Hein. Ouais. Ouais.
Donc, l'idée de vision, l'idée de... Bon, non pas de la drogue, il n'est pas question de drogue, mais enfin, il est question de... On pourrait imaginer quelque chose de...
Bah, c'est bien, tant mieux. Hein. Ça enrichit le travail. Hein.
Bon. Et est-ce que vous avez, après ça, des nouveaux projets? Georges Besse, vous nous disiez que vous dessinez tout le temps.
Depuis que j'ai fini ce bouquin, il y a peut-être 5 mois, j'ai déjà fait un autre album de 62 pages, qui va sortir dans quelques temps, mais c'est le tome 1. J'ai le tome 2 à faire. C'est une science-fiction.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Amen. Et ça parle de la guerre de religion qui s'est étendue à la galaxie entière. Parce que si les hommes se déplacent dans l'univers, ils vont prendre avec eux leur folie, leur dinguerie, tout. Ils vont continuer les mêmes folies ailleurs. Alors je me suis amusé à faire un truc là-dessus. Après, j'ai d'autres projets intéressants. Peut-être que je reviendrai vous en parler.
Eh ben merci beaucoup, Georges Besse, d'être venu nous parler de ce Dracula. Et merci à vous toutes et tous d'être fidèles à l'écoute du Rayon BD. Une émission préparée par Pascaline Bonnet, réalisée aujourd'hui par Émilie Vallat et mise en onde par Alex Dang. On se quitte avec The End of Dracula de Philippe Glass, interprété par le Kronos Quartet, une bande originale composée en 1999 pour le Dracula de Todd Browning, un film de 1931. Les vampires ont la cote cette année et j'ai donc beaucoup de choses à vous signaler. D'abord l'exposition Vampires de Dracula à Buffy qui est visible à la Cinémathèque à Paris jusqu'au mois de janvier. Une autre exposition, c'est celle de Georges Besse, des planches originales de ce Dracula qui sont visibles à la Galerie Glénat, mais c'est seulement jusqu'au 29, c'est-à-dire après-demain. Courez-y si vous êtes à Paris. Et puis la publication en Pléiade de Dracula et autres écrits vampiriques, traduit et commenté par Alain Morvan, que j'ai évoqué. Et pour la bande dessinée, nous pourrons mettre sur notre site les références d'autres bandes dessinées sur Dracula, notamment celle de Guido Crepax chez Actes Sud, que j'ai évoqué, et celle de Mike Mignola et Roy Thomas chez Delcourt, une bande dessinée qui reprend le film de Francis Ford Coppola, dont on a parlé aussi. Sur le site de France Culture, vous pourrez aussi retrouver toute une série d'émissions qui tournent autour de la figure du vampire ou de Dracula, et notamment, si vous voulez en savoir plus sur Bram Stoker, un documentaire de Céline Duchesnay et Marie-Ange Garandeau, diffusé dans l'émission Une vie, une œuvre. Et de Dracula, il en sera encore question cette semaine dans la série documentaire, avec une série de 4 épisodes intitulée La mort vivante, signée Élise Gruau et Anna Schmuck. L'épisode de jeudi s'appelle Obsession vampire. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.